Bienvenue au podcast Obésité de Big Truth. Le podcast qui vise à démarrer une conversation ouverte sur l'obésité, à construire des ponts entre les patients et les soignants et à accroître les connaissances. Je m'appelle Margot Van Rossum et je serai votre hôte pour les prochains épisodes de ce podcast. Enfant et adolescente, j'ai expérimenté à quel point il est difficile de vivre avec l'obésité. C'est pourquoi, avec l'aide d'experts dans le domaine, je pars à la recherche de la vérité sur l'obésité. Est-ce de notre faute ou s'agit-il d'une maladie chronique? Et que peut-on faire pour aider les patients? Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Chasseur, endocrinologue à l'ULB d'Erasme. Bienvenue docteur.
Bonjour Margot.
Aujourd'hui, nous allons aborder dans ce podcast le traitement pharmacologique pour l'obésité. Et donc, moi, en tant que patiente ayant souffert d'obésité, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on entend beaucoup parler d'un certain médicament détourné de sa fonction première. Je pense que c'est pour les diabétiques à la base. Et moi, personnellement, j'entends beaucoup que c'est un peu la solution miracle pour perdre du poids. Qu'auriez-vous envie de me dire à propos de ce médicament?
Mais donc, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a quelques années, sont apparus des médicaments qu'on appelle les agonistes du GLP-1. Donc, en fait, comme leur nom l'indique, les agonistes sont des molécules identiques au GLP-1, qui est en fait un peptide qui simule la satiété. Donc, en résumé, quand on prend ces médicaments, soit par voie orale, soit par injection, on simule la satiété, donc on a bien moins vite faim, on mange de plus petites quantités et surtout, on limite également les grignotages, donc les envies un peu qui viennent comme ça quand on est le soir dans son canapé, qu'on a envie de manger du sucré ou du salé, des chips, du chocolat. Donc ça limite en tout cas cette sensation comme ça que les Anglais appellent craving, donc cette envie de se jeter sur la nourriture quand on ressent un certain inconfort ou un certain ennui. Donc voilà, elles ont effectivement révolutionné donc la perte de poids. Au départ, ces médicaments étaient prévus pour les patients diabétiques, donc le diabète mal contrôlé. Et on s'est aperçu avec le temps donc, que ces molécules, outre le fait de bien contrôler le diabète, permettaient aux patients de perdre du poids de façon significative. Et que d'autres études l'ont montré par la suite, elles protégeaient également de manière secondaire les artères du cœur donc, et les reins. Donc, plusieurs bénéfices. Donc, d'abord, le traitement du diabète. Deuxièmement, la perte de poids. Et troisièmement, les complications métaboliques du diabète, notamment.
Du coup, à partir de quand ces GLP-1 peuvent-ils être prescrits?
Donc, ils peuvent être prescrits avec remboursement ici en Belgique, donc aux diabétiques qui ont une hémoglobine glycosylée, donc une moyenne de sucre des trois derniers mois supérieure à 7,5. Et un BMI, donc cette mesure kilo par mètre carré qui permet de définir en fait le surpoids ou l'obésité, un BMI supérieur à 30. Donc ça, ce sont les conditions de remboursement pour les diabétiques et chez qui on a essayé d'autres médicaments précédemment. Donc en Belgique, on peut les prescrire également aux personnes qui souffrent donc d'obésité avec un BMI supérieur à 30 et des comorbidités, donc diabète, hypertension, hypercholestérolémie, syndrome des apnées du sommeil, ou bien les patients qui ont un BMI supérieur à 35, mais sans remboursement.
Sans remboursement.
Sans remboursement. D'accord.
Vous pourriez m'expliquer un peu le mécanisme de ces médicaments? Comment est-ce qu'ils agissent?
Mais donc, ils simulent en fait l'action d'un peptide qu'on appelle le GLP-1, agoniste du GLP-1. Et donc, cette hormone, en fait, ce peptide, donc, dit que, en fait, assez rapidement que l'estomac est rempli et que donc, en fait, on n'a plus faim et donc on peut limiter les quantités et aussi limiter les grignotages.
Est-ce qu'il faut s'attendre à des effets secondaires lors de la prise de ce médicament?
Oui, donc généralement, c'est au début du traitement, mais c'est très variable d'un patient à l'autre. Comme on a cette impression de satiété et d'estomac rapidement rempli, donc ça peut aller de sensations d'estomac un peu lourdes à des nausées et parfois, bah, effectivement, des vomissements chez certains patients et qui fait que parfois on doit arrêter le médicament. Donc, et c'est souvent au début du traitement et ça s'atténue avec le temps, mais c'est très patient dépendant.
Généralement, on prend ce traitement sur quel laps de temps?
Alors, la réponse n'est pas encore claire. Donc, quand on lit les articles et quand on regarde ce que d'autres pays font, en fait, le problème, c'est que l'obésité est une maladie chronique. Donc, ça, c'est bien connu. Et donc, bah, il faut faire attention toute sa vie. Et donc, ça veut dire que prendre, et ça rejoint un peu votre première question, c'est-à-dire est-ce que c'est un traitement miracle? Mais donc clairement la réponse est non. Donc je rebondis sur votre première question pour dire que effectivement le médicament c'est un peu le coup de pouce en fait pour commencer à perdre du poids, à avoir cette impression de satiété augmentée, de diminuer les grignotages et de perdre du poids environ une quinzaine de kilos en 3 mois en moyenne, hein, en moyenne. Mais évidemment, si on arrête le médicament et qu'on n'a pas changé ses habitudes de vie, donc ni alimentaire, ni sportive à côté, c'est un effet on-off. Donc vous allez perdre du poids avec l'Ozempic, mais si vous n'avez pas changé vos habitudes de vie, dès l'arrêt, en fait, vous allez reprendre du poids. Parce que c'est vraiment un traitement, un adjuvant, en fait, à la perte de poids. Parce que la perte de poids, le traitement de base reste le même pour tous les patients. C'est manger sainement, manger moins de féculents, moins de pain, moins de riz, moins de pâtes, moins de grignotage, moins de chocolat, moins de sucreries, manger davantage de protéines et surtout de légumes. Hein, on parle souvent du régime à la méditerranéenne, mais donc effectivement, donc des légumes variés, des fruits et évidemment reprendre une activité sportive. On a quand même vu ces dernières années que par rapport à l'activité sportive, par exemple, d'il y a 10 ans ou 20 ans, on voit également de plus en plus d'enfants obèses. Donc, parce que clairement, en fait, par rapport à notre activité qui est quand même relativement devenue sédentaire, ben, on ne bouge pas suffisamment. Donc, pour répondre à la question combien de temps faut-il prendre d'Ozempic, ben, le temps qu'il faut pour changer en fait, ses habitudes alimentaires et ses habitudes de vie. Et parfois, c'est plusieurs années.
Oui, donc en fait, on entend parfois des personnes s'en procurer sur Internet. C'est un peu un coup dans l'eau de faire ça, parce que ça va être vraiment juste temporaire. Mais si derrière, il n'y a pas de suivi psychologique où...
Vous allez reprendre tous les kilos perdus.
Pourriez-vous me dire à partir de quel moment vous allez réorienter les patients vers une prise en charge chirurgicale plutôt qu'une prise en charge médicamenteuse?
Alors, c'est vraiment au cas par cas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les GLP-1, les agonistes du GLP-1, la perte de poids moyenne est d'environ 15 kilos sur 3 mois. Donc, on peut espérer perdre 20 kilos avec les GLP-1. Mais le problème, c'est que certains patients doivent perdre du poids vraiment pour des raisons urgentes de santé, rapidement et ben, beaucoup, beaucoup de poids. Donc, je pense par exemple à des patients qui ont fait un infarctus ou qui ont le foie gras, donc la stéatose hépatique, ou qui sont à haut risque de développer des complications cardiovasculaires parce que, ils fument, ils ont déjà fait un infarctus dans le passé, et puis ils sont dans une obésité morbide avec un BMI supérieur à 40. Donc, ces patients, on peut espérer en fait perdre 20 kilos peut-être, mais s'ils doivent perdre 60, 70 kilos, clairement avec les agonistes du GLP-1, on ne va pas y arriver. Et on ne va sûrement pas y arriver non plus dans un temps suffisamment court, parce qu'effectivement, avec la chirurgie bariatrique, et je pense que vous le savez, on perd pas mal de kilos en peu de temps. Donc, ce qui permet d'avoir des résultats quand même probants en peu de temps, ce que les agonistes du GLP-1 ne permettent pas, en tout cas, et les molécules actuelles ne permettent pas pour l'instant. Et alors, par exemple, aussi, des femmes aussi qui ont une obésité morbide et chez qui on doit perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilos en peu de temps. Enfin, je pense aussi à des gens qui ont, par exemple, des douleurs lombaires dans le cadre de maladies avec de l'arthrose, de l'arthrite et qui doivent perdre rapidement du poids, par exemple, pour une intervention de la hanche, une intervention du genou. C'est parfois compliqué de prescrire des GLP-1.
À ce moment-là, du coup, vous continuez le traitement de GLP-1 en combinaison avec une chirurgie bariatrique?
Alors non. Donc, soit le patient a des complications métaboliques sévères, doit perdre du poids rapidement, alors on va plutôt les orienter donc, vers la chirurgie bariatrique. Maintenant, ce que vous dites est correct. On peut aussi... Pour que la chirurgie bariatrique se passe dans les meilleures conditions chez un patient, par exemple, qui est extrêmement obèse, c'est de lui prescrire des GLP-1 avant l'intervention chirurgicale pour déjà perdre 15 à 20 kilos, pour lui permettre d'avoir une chirurgie qui se passe dans les meilleures conditions. Une autre indication des GLP-1 dans la chirurgie bariatrique, c'est par exemple une reprise de poids après une sleeve ou après un bypass. Et un patient qu'on n'a pas forcément envie de réopérer, de faire un redo chirurgical, alors on peut, sans souci, donc l'orienter aussi vers un traitement pharmacologique. tout en gardant toujours à l'esprit ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises. Si le patient a repris du poids après sa chirurgie bariatrique, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est qu'il y a eu une modification des habitudes alimentaires, c'est qu'il y a eu une dilatation de la poche gastrique s'il y a eu, par exemple, un sleeve, c'est qu'il y a eu une activité sportive qui a été moindre et donc qui a permis que, en fait, le bilan calorique soit positif et donc qui lui a malheureusement permis de reprendre du poids. Donc, à nouveau, la prescription pharmacologique doit toujours s'accompagner d'une prise en charge diététique et psychologique parce que, voilà, prescrire le GLP-1 comme ça à quelqu'un qui a été opéré, qui a repris du poids, bah de nouveau, hein, il va réarrêter les GLP-1 et il va reprendre du poids.
À partir de combien de pourcents de poids repris peut-on envisager de prescrire des GLP-1 à un patient en reprise de poids après une opération ?
Alors, il n'y a pas de chiffre clair, mais prenons par exemple un exemple de quelqu'un qui va perdre 60 kilos après une chirurgie bariatrique et qui, après la première année ou la deuxième année, reprend 20 kilos, 30 kilos, la moitié du poids perdu, on peut se dire qu'à un moment, il faut faire quelque chose. Donc, évidemment, si c'est la totalité du poids perdu, mais généralement, voilà, si on se dit qu'il a perdu 60 kilos et qu'il a repris déjà 15-20 kilos, il faut déjà commencer à y penser. Toujours accompagné des mesures, hein, encore une fois, toujours accompagné des mesures d'activité physique et de régime. S'il reprend du poids, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du régime qui coince. Hein. Je pense par exemple à un patient qui avait une chirurgie bariatrique et effectivement, il racontait qu'il avait eu un contexte de stress en fait, au niveau professionnel. Et donc, puisqu'il avait une chirurgie bariatrique, il pouvait forcément manger moins. Mais donc, en fait, il ne mangeait que des calories, des mauvaises calories. Donc, en fait, il mangeait de la glace parce que ça passait bien en fait, au niveau de la poche gastrique. Mais donc, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille surtout.
Quand j'étais en surpoids, des personnes de mon entourage m'ont parfois dit « Tu n'as qu'à manger moins, tu n'as qu'à bouger plus », comme si c'était facile de perdre du poids. Moi, j'ai eu beaucoup d'épisodes de yo-yo. Je perdais 5 kilos, je me décourageais, je reprenais ces 5 kilos. Qu'est-ce que j'aurais pu leur répondre à ces personnes qui avaient l'impression que c'était facile de perdre du poids ?
Mais donc, moi, je répondrais par deux mots, alors qui ne sont pas antinomiques. Mais donc, le premier, en tout cas, c'est déculpabilisation. Parce qu'effectivement, donc, les patients qui sont en surpoids et donc en obésité, on voit que bien souvent dans l'histoire familiale, il y a aussi des cas de surpoids et d'obésité. Donc ça veut dire qu'il y a une prédisposition génétique aussi à l'obésité. Par rapport à la balance calorique et à la balance métabolique, en fait, on n'est pas tous égaux. Donc ça veut dire que chez certaines personnes, en fait, le cerveau et l'hypothalamus donc, est conditionné en fait, à manger plus qu'il ne parvient à dépenser. Donc, ça veut dire que déjà, on part sur une base qui n'est pas identique pour tous. Pour simplifier, on va dire qu'avec le même métabolisme, vous allez manger la même chose et forcément, vous allez peut-être prendre plus de poids qu'une autre personne qui, elle, ne sera pas en surpoids ou ne sera pas donc obèse. Donc ça, c'est la première chose, c'est une déculpabilisation. Donc, il ne suffit pas que de manger mieux et de faire du sport pour perdre du poids. Il y a toute une composante génétique, métabolique et hormonale qui intervient effectivement dans la prise de poids et on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous les mêmes profils métaboliques et parfois on ne peut pas toujours lutter contre ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais le deuxième mot que j'utiliserais, c'est peut-être c'est un peu fort aussi, mais c'est responsabilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, le patient qui est en surpoids et ou obèse, mais donc il est acteur de sa perte de poids. Donc, même si, en fait, on est là, les endocrinologues, les gastro-entérologues, les chirurgiens, les diététiciens et les psychologues pour porter les patients qui souhaitent perdre du poids, le patient reste l'acteur principal de sa perte de poids. C'est-à-dire qu'on va le soutenir, on va lui proposer plein de choses, que ce soit effectivement les mesures hygiéno-diététiques, le sport, le traitement pharmacologique, la chirurgie bariatrique, mais lui doit vraiment continuer, effectivement, à faire très attention. Par exemple, je pense à la chirurgie bariatrique. Mais donc, après la chirurgie bariatrique, vous le savez, donc, il y a un risque de carence vitaminique très important. Mais donc, effectivement, tous les ans, il faut que le patient se représente pour pouvoir faire une prise de sang, pour être sûr que ses bilans vitaminiques soient corrects et qu'il n'y ait pas de carence. Donc, il faut suivre, en fait, la route aussi pour que les choses se passent au mieux.
Oui, il faut tenir à l'œil l'après. C'est
voilà,
ce que vous
voilà,
êtes en train de
voilà,
dire,
et suivre les rendez-vous réguliers et continuer à pouvoir sur la durée et sur la distance, parce que comme on l'a dit, l'obésité est une maladie chronique. Pouvoir continuer tous ces efforts, effectivement, d'exercice physique, de réadaptation et de changement des habitudes alimentaires. Alors, on est là justement comme les supporters de première ligne pour vous encourager, pour rectifier le tir. Mais c'est vrai que au quotidien, c'est le patient qui est acteur de sa perte de poids.
On n'est pas seul, on est bien entouré et je pense qu'il ne faut pas hésiter de consulter chaque année, comme vous dites, pour un suivi régulier. Moi, ça fait 3 ans que j'ai été opérée et je pense poursuivre ce suivi-là chaque année. Déjà, je suis contente de revoir mon chirurgien qui a permis cette perte de poids. Je suis contente de voir ce suivi et aussi de voir effectivement si j'ai des carences ou pas. Qui peut prescrire les GLP-1?
Donc, les spécialistes en endocrinologie. Donc, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, soit aux diabétiques, donc sous remboursement. Donc, hémoglobine glycosylée supérieure à 7,5 et BMI supérieure à 30. Soit les patients qui souffrent donc d'obésité avec des comorbidités, donc un BMI supérieur à 30 ou un BMI supérieur à 35.
Les médecins généralistes peuvent-ils en prescrire?
Depuis le décret de décembre 2024.
Et alors, j'aurais encore une question à vous poser. Parfois, il y a des personnes qui sont en léger surpoids, qui n'ont pas de comorbidité et qui pensent que ces médicaments-là sont la solution et qui parfois arrivent même à s'en procurer de manière pas tout à fait légale. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, déjà notamment par rapport aux conséquences à long terme sur leur santé?
Mais je pense que prendre tout médicament, donc quel qu'il soit, ben voilà, est un danger potentiel. Donc, les GLP-1 sont des molécules qui sont sorties maintenant il y a quelques années. Et donc, on a vu au niveau des effets secondaires, donc des pancréatites, et ben, chez certains patients diabétiques, parce que la glycémie diminuait trop rapidement, des problèmes oculaires. Mais on n'a pas encore un recul suffisant par rapport à l'émergence de toutes ces molécules pour savoir si d'autres effets secondaires vont possiblement arriver. Donc, on est dans l'inconnu total. Donc, quand on doit perdre quelques kilos et que donc on peut y arriver en faisant attention quand même au niveau de sa nourriture, parce que bon, on ne parle pas ici de 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Hein, donc, on parle de 5 kilos, 6 kilos, 8 kilos. Et donc, la question est... est-ce que vraiment pour 5, 6, 7 kilos, ou en fait, il faut modifier sa façon de cuisiner, sa façon de bouger? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments qui peuvent provoquer des effets secondaires? Et surtout, finalement, poser un problème aussi d'approvisionnement des patients qui en ont véritablement besoin? Parce que quelque part, on en arrive à l'éthique médicale aussi. C'est-à-dire, est-ce que si j'ai un léger surpoids et que je suis à 26 de BMI, avec les problèmes d'approvisionnement de ces molécules pour l'instant, est-ce que je ne vais pas priver un autre patient qui, à un moment donné, en a vraiment besoin parce qu'il a énormément de comorbidité et qu'il doit perdre du poids plus rapidement? C'est toute une question d'éthique médicale. Et autre chose, parce que je rebondis à votre question, donc sur votre question. Donc, une des questions aussi qu'on se pose par rapport au GLP-1, c'est que donc, ils font quand même perdre pas mal de poids. Bon, alors, moins que dans un contexte de chirurgie bariatrique, mais donc, vous savez, Margot, qu'avec une chirurgie bariatrique, on peut avoir des carences en fer, en vitamine D, en calcium, en zinc. Mais on est en train d'étudier maintenant l'effet de ces molécules aussi sur ces carences. Parce que donc on se demande si perdre 15-20 kilos aussi ne peut pas avoir une conséquence justement sur les carences en fer, ces carences en vitamine D. Donc, est-ce qu'on ne va pas aussi devoir monitorer au plus près ces patients qui prennent des médicaments? Donc, répondre de manière claire aux patientes qui sont en léger surpoids et qui veulent s'imposer tout ça, je pense que c'est déraisonnable, mais voilà.
J'ai encore une question. Est-ce que tous les patients sous GLP-1 maigrissent de la même manière?
Non, donc il y a des patients qui sont résistants au GLP-1, donc qui malgré la dose maximale de traitement en fait ne perdent que quelques kilos ou voire même ne perdent pas du tout de poids. Alors, on ignore encore à l'heure actuelle quels sont les facteurs qui font que certains patients, en fait, sont résistants au traitement. Mais donc, ça nous permet aussi d'embrayer sur la question pourquoi certains patients donc, bénéficient d'un traitement pharmacologique ou d'une chirurgie. Parfois, en fait, le traitement pharmacologique aussi ne fonctionne pas. Donc, outre le traitement qui est toujours modifier les habitudes alimentaires, les habitudes sportives, il y a certains patients qu'on doit réorienter vers une prise en charge chirurgicale parce qu'après une durée de 3 à 4 mois de GLP-1 bien suivi à la dose maximale, certains patients ne perdent pas de poids.
Comme quoi, on n'est vraiment pas tous égaux devant...
Exactement, exactement. Et on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore précisément les raisons pour lesquelles on n'est pas tous égaux et certains sont résistants à certains traitements et d'autres pas.
Pour clôturer ce podcast, j'aurais envie de vous demander quel est le message à retenir sur le traitement pharmacologique.
Donc, le traitement pharmacologique peut être une aide. Donc, pour de nombreux patients qui ont déjà essayé beaucoup de régimes, qui ont eu un effet yo-yo, qui sont prêts à modifier leurs habitudes alimentaires et leur activité sportive, ça peut être un bon coup de pouce. Donc, à condition qu'ils soient répondeurs, donc pour effectivement perdre donc du poids, donc dans des conditions bien définies. Donc, il s'agit d'une obésité compliquée, c'est-à-dire d'une obésité avec un BMI supérieur à 30 et des comorbidités, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, ou d'une obésité morbide. Mais il faut garder à l'esprit que, donc on vient de le dire, ces traitements parfois ne fonctionnent pas chez certains patients résistants. Deuxièmement, que ces traitements donc, peuvent donc, être responsables d'effets secondaires, on l'a dit, des cas rares de pancréatite par exemple, et des effets secondaires donc, au quotidien comme les nausées aussi, qui ne sont pas toujours très agréables. Et que ben, donc, malgré tout, ces médicaments permettent une perte de poids qui est quand même conséquente. Mais on ne perd pas que de la masse grasse, on perd aussi de la masse musculaire. Ce qui implique qu'on ne prend pas des GLP-1 comme ça, comme vous l'avez dit, en les achetant sur Internet, sans suivi, parce qu'on perd de la masse grasse, mais on perd aussi de la masse musculaire. Donc, on doit aussi augmenter donc, son apport en protéines, on doit renforcer son activité physique, quitte à faire de la kiné de réadaptation. Et on peut aussi voir se développer des carences donc, en fer, en vitamine D, en calcium, liées à la perte de poids. Donc, c'est pour cela que en fait, les prises de sang doivent être régulières et que ça nécessite un suivi et médical, et psychologique, et diététique.
En résumé, les GLP-1 sont un très bon outil, mais avec modération.
Un parmi tant d'autres et avec modération.
Encadré.
Absolument. Vous avez tout résumé, Margot.
Merci, docteur Chasseur, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci, Margot, pour ces questions.
Ce podcast a été réalisé avec le soutien du Baso et du Bisoms. Pour plus d'informations et de sources, vous pouvez consulter les notes de l'émission de ce podcast. Trouvez-vous cet épisode intéressant et voulez-vous que d'autres personnes le découvrent? N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Obesitas de Big Truth ou laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Avez-vous des questions après cet épisode? Vous pouvez les poser via le site web www.obesitydebigtruth.eu.